lectioyouth.net.
Lire,
comprendre,
vivre
la parole de Dieu.
Lire ou écouter
chaque semaine www.lectioyouth.net.
Baptême du Seigneur, année B. Prier. Psaume. Cantique. Isaïe 12, versets 2, 4, 5 à 6. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur. Proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses refaits. Redites-le. Sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez. Criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël.
Lire la parole. Première lecture, Isaïe chapitre 55, versets 1 à 11. Ainsi parle le Seigneur, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas, accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du sang d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission.
Deuxième lecture, 1 Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau. Puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils.
Évangile, Marc chapitre 1, versets 7 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie.
Entendre la parole. Le thème. Baptême d'obéissance. Il est logique de conclure la saison de Noël par la célébration du baptême de Jésus, car elle a marqué la fin de la vie tranquille et privée de Jésus à Nazareth et le début de sa mission publique. Le baptême signale toujours une transition, le début de quelque chose de nouveau en réponse à la volonté et à la direction de Dieu. Par conséquent, il peut toujours être considéré comme un acte d'obéissance. La première lecture contient un oracle d'un prophète connu sous le nom de deuxième Isaïe, encore appelé Deutéro-Isaïe. Délivrant ses oracles vers la fin de l'exil à Babylone, le prophète chercha à préparer le peuple à la fin de l'exil et à une restauration future, la seconde chance que Dieu leur donnait après la destruction qu'ils avaient subie des mains des Babyloniens. Isaïe savait que l'exil était le résultat de la rupture de l'alliance avec Dieu. Par conséquent, Isaïe visait à raviver les espoirs de restauration des gens, à les aider à ne pas répéter les erreurs du passé. Le prophète a commencé par rapporter l'invitation de Dieu à prendre la nourriture et la boisson que Dieu offrait gratuitement et abondamment à tous. La nourriture et la boisson servent de métaphore pour ce qui nourrit vraiment la vie, entendre et adhérer à la parole de Dieu. Les échecs passés d'Israël à cet effet ont provoqué l'ignominie et la dévastation de l'exil. Isaïe a justifié sa confiance dans la restauration, faisant allusion à la fidélité de Dieu, à l'alliance conclue avec les ancêtres d'Israël. Il a évoqué l'alliance de Dieu avec David, une promesse éternelle et inconditionnelle de préserver David et ses descendants et de donner du repos à toutes les nations israélites. Le choix et l'engagement de Dieu envers les Israélites les rendaient spéciaux le Saint d'Israël, les a glorifiés. Par conséquent, Isaïe envisage à l'avenir cette communauté d'alliance rétablie sera comme un aimant attirant toute l'humanité vers elle-même, car tous verront la présence de Dieu au milieu d'Israël. Le triste sort des exilés sera radicalement changé. Dieu transformera leurs conditions d'humiliation et de vulnérabilité en gloire et en sécurité. Ces grands espoirs pour l'avenir reposaient cependant sur les Israélites en ouvrant leurs oreilles à la parole de Dieu. Ainsi, Esaïe les exhorte à chercher le Seigneur, à abandonner la méchanceté et à se détourner de l'iniquité comme premier pas vers le pardon et le renouvellement de l'alliance rompue. Ainsi, Esaïe les exhorte à chercher le Seigneur, à abandonner la méchanceté et à se détourner de l'iniquité comme premier pas vers le pardon et le renouvellement de l'alliance rompue. Le prophète conclut par une puissante double déclaration divine. Premièrement, Dieu a déclaré que ses voies sont impénétrables et insondables, dépassant infiniment la pensée et le raisonnement humain. Le raisonnement et les desseins de Dieu dépassent la compréhension humaine. Tout comme les cieux s'élèvent au-dessus de la terre, Dieu a une autonomie absolue dans tout ce qu'il fait. Les hommes peuvent ne pas comprendre les voies de Dieu, mais ils doivent accepter sa volonté, sachant que ses actions sont bienveillantes et découlent de sa fidélité à l'Alliance et de son amour pour eux. La deuxième déclaration concerne la parole de Dieu, dont l'efficacité est décrite de manière poignante à travers une comparaison avec l'eau. L'eau exerce sa magie en tombant sur les graines et en les faisant germer. Ce processus est irréversible. De même, rien ne peut entraver ou contrecarrer l'efficacité de la parole de Dieu. Les desseins de l'Esprit de Dieu et de sa volonté se réaliseront sûrement et sa parole aura son effet. Ces déclarations puissantes visaient à rassurer les exilés sur le fait que la restauration décrétée par Dieu aura inévitablement lieu. Cependant, le prophète a également enseigné que la clé de la restauration et de la gloire future de la nation réside dans l'obéissance et l'adhésion à la volonté et à la parole de Dieu. La deuxième lecture résume les fondements de la croyance et de la pratique chrétienne, telle qu'envisagée par Jean. Tout commence par une reconnaissance de Jésus comme le Christ, c'est-à-dire le Messie envoyé par Dieu. Une telle foi conduit le chrétien à être né de Dieu, à appartenir à Dieu et à être compté parmi son peuple. La vraie foi trouve son expression extérieure à travers l'amour. Cette dimension extérieure de l'amour se manifeste par l'obéissance aux commandements de Dieu qui, pour Jean, sont tous résumés dans le commandement de s'aimer les uns les autres. Jean comprend que l'amour de Dieu s'exprime dans l'amour du prochain et vice-versa. Ces deux sortes d'amour sont inséparables. L'amour permet aux croyants de conquérir le monde, ce qui implique de surmonter les pouvoirs de l'incrédulité, de l'ignorance et surtout de la haine. Le christianisme est un mode de vie englobant qui commence par un acte de foi en Jésus-Christ accompagné de la pratique de l'amour. L'amour établit et maintient l'union incassable des croyants avec Dieu et les uns avec les autres. La deuxième partie de la lecture fournit une présentation succincte de Dieu en tant que Trinité. Premièrement, Jésus est décrit comme celui qui est venu par l'eau et le sang. Cette phrase fait référence à son ministère terrestre qui a commencé avec son baptême et s'est terminé sur la croix. La deuxième personne, le Saint-Esprit, témoigne de l'efficacité et du succès de l'œuvre salvifique de Jésus en continuant à donner aux croyants le moyen de persévérer dans la foi et dans l'amour. Cependant, en fin de compte, la mission de Jésus et l'œuvre du Saint-Esprit témoignent de l'amour de Dieu et de son intention salvifique pour l'humanité. En sauvant, puis en unissant les croyants à lui-même par l'œuvre de Jésus et du Saint-Esprit, Dieu a accompli son propre commandement d'amour. La vie chrétienne consiste donc à croire en Jésus et à répondre à l'amour de Dieu en obéissant à son commandement suprême d'amour. Les croyants sont baptisés en Dieu en professant leur foi en Jésus et en pratiquant le commandement d'amour. Le passage de l'Évangile se concentre d'abord sur la mission et l'identité de Jean-Baptiste. Le texte déclare explicitement que Jean était un précurseur de quelqu'un qui a plus de pouvoir et de dignité, Jésus. Le plus grand pouvoir de Jésus est montré à travers le baptême qu'il apporterait. Alors que Jean baptisait avec de l'eau, pour la purification, la repentance, Jésus baptisait avec le Saint-Esprit. Cela fait référence à l'effusion future du Saint-Esprit qui a transformé les fidèles timides de Jésus en évangélisateurs zélés et puissants qui porteraient le message de Jésus au monde entier. La déclaration de Jean sur le dénouement des sandales de Jésus fait référence à un service traditionnel accompli par des serviteurs pour leur maître. Ainsi, Jean se reconnaît comme le serviteur de Jésus. L'acceptation du baptême par Jésus ne contredit ni ne diminue sa plus grande importance et dignité. Le baptême de Jean était destiné à la repentance, ce qui signifie changer sa vie. Jésus a accepté le baptême de Jean, non pas pour se faire pardonner ses péchés, mais comme un signe de son acceptation de sa volonté de commencer sa mission dans le monde. Il s'est détourné de sa vie tranquille et ordinaire à Nazareth et a commencé le ministère public. Une telle compréhension du baptême de Jésus trouve un soutien dans ce qui s'est passé à la suite. En réponse au baptême de Jésus, une voix divine l'a déclaré « Mon fils, le bien-aimé ». Dieu a ainsi confirmé que Jésus était venu au monde pour accomplir l'œuvre qui lui avait été confié par le Père et que son baptême était une déclaration publique de son obéissance à la volonté de Dieu. La célébration du baptême de Jésus met en lumière le thème de l'obéissance à la volonté de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, médiatisée par les prophètes et la loi, était un premier pas vers la restauration et une garantie de gloire future pour les Israélites exilés. Pour Jean, l'obéissance au commandement d'amour de Dieu était la condition fondamentale et nécessaire pour lui appartenir. Aimer signifiait être baptisé dans la communion avec Dieu et les autres. Le baptême de Jésus reflétait la décision d'accepter de jouer son rôle dans le projet de Dieu de sauver le monde, même si cela devrait le conduire à la croix. On peut dire que tous ceux qui acceptent d'obéir à la volonté de Dieu, souvent difficile et coûteux, subissent un baptême d'obéissance. Ce faisant, ils démontrent que leur cœur est rempli de la confiance et de l'assurance que reflètent les paroles du psalmiste. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur.
Écoutez la parole de Dieu. Une citation stimulante attribuée à Dietrich Bonhoeffer dit « Un acte d'obéissance vaut mieux que son serment. Une personne qui obéit fidèlement à Dieu est un serment ambulant. La vie des personnes obéissantes inspire et en même temps défie. Ces personnes incarnent le message de l'Évangile. La décision de Jésus de se soumettre au baptême de Jean apparaît comme une énigme théologique, surtout si l'on considère le fait qu'il s'agissait d'un baptême destiné aux pécheurs, dans une mare d'eau, avec des pécheurs qui entraient et sortaient, une voix du ciel désigna une personne et déclara « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » La filiation de Jésus s'est exprimée dans son sens le plus large par son obéissance totale au Père. Le ministère public de Jésus a commencé par un baptême d'obéissance et s'est terminé par la crucifixion de l'obéissance. Du début à la fin, tout était question d'obéissance. Par sa recherche d'obéissance à la volonté du Père, Jésus a révélé le chemin qui mène à la vie et au bonheur. Il s'agit de faire tout ce que le Seigneur dit. Tous ceux qui ont été baptisés d'eau n'adoptent pas souvent un baptême d'obéissance. Beaucoup sont prêts à t'offrir presque n'importe quel type de sacrifice, sauf le sacrifice de l'obéissance. L'obéissance paraît trop risquée aux yeux de certaines personnes, car elle exige un changement de vie. Pour ces personnes, la prière est une demande à Dieu de faire leur volonté et non une soumission à la volonté de Dieu. Pourtant, l'obéissance est le caractère déterminant d'un vrai chrétien. Ce n'est pas simplement une vertu, c'est le test de toute autre vertu. Comme l'or, passant par le four, toutes les autres vertus sont testées par la vertu de l'obéissance. Un proverbe d'origine kényane dit « Celui qui refuse d'obéir ne peut pas commander ». La profondeur de notre impact dans la société est mesurée par la force de notre obéissance à Dieu. C'est en apprenant à écouter que l'on peut parler. Nous pouvons avoir de nombreux plans d'action en tête, mais il est opportun que nous recherchions et actualisons le plan d'action de Dieu à tout moment. Une personne obéissante secoue une barre d'autorité invisible. Lorsqu'un sauveteur saute dans des eaux dangereuses, ce n'est pas parce qu'il veut laver la saleté corporelle, mais pour sauver ceux qui se noient. Il risque sa vie pour sauver ceux qui sont en danger. C'est ce que Jésus-Christ a fait par son baptême. C'est une bonne nouvelle pour chaque pécheur de chaque génération. Que tous ceux qui se noient dans le péché
Sache qu'en Jésus, nous avons trouvé un sauveteur fiable, nous avons trouvé un sauveur.
Proverbe, celui qui refuse d'obéir ne peut pas commander.
Agir, s'examiner. Est-ce que je considère ce que dit la parole de Dieu avant d'entreprendre une action importante dans ma vie? Suis-je ouvert à la volonté de Dieu lorsque je me lève pour prier? Suis-je susceptible à déformer la volonté de Dieu pour l'adapter à mon agenda personnel?
Répondre à Dieu. Je viens dans un espace sacré et je m'assois tranquillement devant le Seigneur. À maintes reprises, je dis avec une profonde sincérité au Seigneur, fais de moi ce qui te plaît. Je me lève de la prière déterminé à mettre en pratique tout ce à quoi la parole de Dieu m'engage.
Répondre à notre monde. Quel serait mon baptême d'obéissance? J'identifie un moyen par lequel je pourrais mettre en œuvre cette idée dans ma vie et agir en conséquence. Dans l'obéissance à la volonté révélée de Dieu, nous tendons la main aux marginalisés de la société. Nous tendons une main d'amitié aux personnes souffrant de stigmatisation en raison de leur mauvaise santé ou à cause de leur situation socio-économique.
Priez.
Père éternel, en toi, nous mettons notre confiance et nous ne serons jamais déçus. Dans ta sainte volonté réside notre paix et notre salut. Adoucis nos cœurs avec ta grâce, afin que nous soyons prompts à faire tout ce que tu nous dis. Pour l'amour du Christ, nous prions. Amen.
Lectionlouv.net.
Lire,
comprendre,
vivre
la parole de Dieu.
Lire ou écouter
chaque semaine
www.lectionlouv.net.